Eh bien, nous sommes vendredi, c'est Canal Sud et c'est le cinquième vendredi du mois d'avril pendant l'exposition de l'action numéro 115 au Dradec, exposition de textes contre la guerre et donc en direct à l'antenne de 19h30 à 20h, nous vous lisons des textes contre la guerre. Et on commence.
Il y a
des petits ponts et pas tant. Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Il y a un beau petit cottage dans un jardin. Il y a 6 soldats qui s'amusent comme des fous. Il y a mes yeux qui cherchent ton image. Il y a un petit bois charmant sur la colline. Il y a un vieux territorial qui pisse quand nous passons. Il y a un poète qui rêve au petit loup. Il y a un petit loup exquis dans ce grand Paris. Il y a une batterie. Dans une forêt, il y a un berger qui paie ses moutons. Il y a ma vie qui t'appartient. Il y a mon porte-plume réservoir qui court. Il y a un rideau de peupliers délicat, délicat. Il y a toute ma vie passée qui s'est bien passée. Il y a des rues étroites à Menton où nous sommes aimés. Il y a une petite fille de Sospel qui fouette ses camarades. Il y a mon fouet de conducteur dans mon sac à avoine. Il y a des wagons belges sur la voie. Il y a mon amour. Il y a toute la vie. Je t'adore. Au revoir, mon petit loup. Guy. Guillaume Apollinaire.
Il y a un autre texte à lire en poème. Tu nous fais une autre lecture de poésie.
Oui. Tout de suite.
Oui, pourquoi pas. Parce qu'on démarre sur les poèmes, alors, on continue sur les poèmes.
Alors continuons avec Le Dormeur du Val que tout le monde connaît.
De
Arthur Rimbaud.
Merci.
C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes ses haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais que son bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, perce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Octobre 1870.
Et puisqu'on continue sur la poésie, un texte d'un personnage beaucoup moins célèbre que... On entend ? C'est bon. Un texte, personnage moins célèbre que Rimbaud ou Apollinaire, Luis Méndez, de Canal Sud, je lis, La Roue. Ce malaise a déjà eu lieu, ce qui t'en est suivi aussi. Un scénario renouvelable, un vivier à remake, dirait-on. Les fondations s'effondrent à tout jamais. Croirait-on, c'est sans compter l'opiniâtreté des médecins d'obédience. Ils en posent des pansements, des plâtres, des onguents, des leurres, et la machine repart pour un temps qui n'est pas éternel. Et l'efficience des charlatans faillit encore une fois. C'est alors qu'on fait appel aux cuisiniers d'obédience. Ils ressortent des tiroirs leurs vieilles recettes. Un démon apparaît, bien qu'il fût toujours là. De faux dieux s'insurgent, forcément timidement. Qui n'est pas un démon est un dieu, bienveillant subvertuge, qui s'attache avec d'autres à rétablir un ordre qui régentait avant le malaise. Et ceux qui ne sont ni démons ni dieux subissent auparavant, à l'instant et ensuite. On entend... On entendait la technique, donc je peux lire après, ça c'est 14-18, puisque moi ce que j'aimerais bien qu'on dise, c'est que des guerres, on parle d'une guerre, mais que c'est sans arrêt. Alors là, il y a le micro qui est ouvert à la régie et on entend des bruits derrière, je ne sais pas pourquoi. Et donc des guerres, il y en a eu, alors on parle toujours de la première, de la dernière. Là, c'est 14-18, 14-18 est le travail des femmes. L'histoire des guerres, c'est bien connu, est une histoire d'hommes. On parle très peu de la rupture qu'a représentée 14-18 du point de vue de l'histoire des femmes. L'opinion publique a retenu un afflux des femmes dans les usines et les bureaux, Les manuels d'histoire se réfèrent aux statistiques qui montrent une décroissance de l'activité féminine. L'histoire la plus couramment retenue et enseignée sur les femmes et la guerre de 14-18, quand elle est enseignée, regorge de clichés. En gros, on se souvient qu'elles ont travaillé dans les usines de guerre. C'est même là qu'elles auraient commencé à travailler. Puis elles sont entrées à la maison après la guerre. Une guerre qui a fait de nombreuses veuves éplorées, des demoiselles célibataires, dont on retient surtout les fameuses demoiselles des PTT et les institutrices enseignantes. Bref, il n'y aurait pas d'histoire des femmes en gros jusqu'en 1960, où là, elles auraient enfin commencé à travailler massivement avec les Trente Glorieuses. Tout juste si les révolutionnaires les plus érudits se souviennent qu'il y a eu des grèves importantes vers la fin de la guerre de 14 et que les débats sur le travail des femmes ont fait rage. En 1913, un ouvrier du livre s'est fait exclure de la CGT pour avoir laissé travailler sa femme et pire, l'avoir laissé se syndiquer. La période de l'immédiate après-guerre est en fait très peu étudiée. Elle est pourtant fondamentale dans l'histoire du mouvement ouvrier et pas seulement à cause de la naissance de l'Union soviétique et des débats qu'elle a entraînés sur lesquels on se focalise souvent. La guerre de 14-18 marque l'entrée dans un monde nouveau, celui de la production de masse, qui va précéder ensuite la société de consommation. C'est une période de bouleversement de la culture ouvrière, nouveau traumatisme qui s'ajoute à celui de la boucherie. L'histoire des femmes reste à écrire pour à peu près toutes les époques, mais elle est particulièrement occultée là. Il y a d'abord un vrai traumatisme, les hommes étaient au front, pas les femmes. Pendant ce temps, elles ont occupé la place des hommes. Du moins dans l'imaginaire, on vient de voir qu'elles ont plutôt été utilisées à une autre place, mais dans des lieux réputés masculins. C'est-à-dire les usines d'armement, on l'avait dit. Choquées par la guerre, déjà ébranlées dans leur identité, les anciens combattants voyaient remis en cause le caractère purement masculin de leur travail. On imagine donc les réactions d'hostilité, y compris syndicales. D'autant qu'il faut quelque peu sortir du cliché des veuves éplorées. Il y a eu deux fois plus de divorces en 1920 qu'en 1913. Sur les 87 départements de la France. Pénurie de main-d'œuvre oblige, on a fait largement appel à l'immigration et le nombre de mariages mixtes, français et étrangers, a commencé à monter en flèche déjà pendant la guerre. Enfin, signalons une particularité de 14-18, il n'y a quasiment pas eu de baby-boom comme c'est habituel après une guerre. La grève des ventres n'a pas été qu'un slogan à marginal, elle correspondait à un état d'esprit assez partagé. Le mouvement ouvrier a largement mythifié une classe ouvrière blanche, masculine et qualifiée. Ceci lui a interdit de voir ce qui se passait. Les transformations sociales de la classe ouvrière à l'œuvre, les nécessités de faire évoluer l'action syndicale. Si cette période devait nous enseigner quelque chose, c'est que d'occulter les différentes formes de domination, d'occulter la dimension patriarcale mais aussi la dimension coloniale, c'est s'interdire de voir l'évolution des formes d'exploitation, d'analyser les transformations sociales à l'œuvre, et c'est donc s'interdire de combattre efficacement. Wait until the war is over, and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over for the
a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier.
Sur un livre de Svetlana Alexievitch. Elle est connue pour avoir écrit la supplication par rapport à Tchernobyl. Et là, son livre, c'est « La guerre n'a pas un visage de femme ». En fait, pendant 7 années, elle a recueilli les témoignages de femmes dont beaucoup étaient à l'époque à peine sorties de l'enfance. Des femmes donc qui sont parties, des milliers de femmes russes qui ont été envoyées au front pour combattre l'ennemi nazi et qui se sont engagées. Donc c'est intéressant et j'ai donc relevé quelques paroles de femmes par rapport à la guerre. Je ne peux pas en parler. Pendant des années, je n'ai pas pu aller au marché. Je ne supportais pas la vue de la viande. J'ai essayé de comprendre en quoi mourir est différent d'être tué et où se trouve la frontière entre humain et inhumain. Je ne me souviens que de ce que j'ai vécu. Il y avait beaucoup de monde autour de moi. Mais on était toujours seul. L'être humain est toujours seul devant la mort. Je suis rentrée de la guerre avec les cheveux blancs, 21 ans et la tête chenue comme celle d'une vieille femme. Bizarre, non? Est-ce que les films de guerre peuvent être en couleur? Au front, tout est noir. Seul le sang est d'une autre couleur. Seul le sang est rouge. À la guerre, je vous dirais, on est à moitié des humains et à moitié des bêtes. Quelque chose de très ancien nous revient. Sinon, on ne pourrait pas survivre. Souvent, nous enfouissions les corps dans la forêt, au pied des arbres, sous un chêne, sous un bouleau. Depuis, je ne peux plus aller me balader en forêt, surtout là où poussent les vieux chênes ou de vieux bouleaux. Je ne peux pas m'y asseoir. Je voudrais oublier... Écrivez-le, se rappeler la guerre, c'est continuer de mourir et encore mourir. C'est un point difficile, mais sans haine, on ne pourrait pas tirer. On est à la guerre, pas à la chasse. La guerre commence par la haine. Il nous semblait que la paix allait désormais toujours régner sur terre, que plus personne ne voudrait jamais la guerre et que toutes les munitions devraient être détruites. À quoi bon les garder ? Nous étions fatigués de haïr. Mais les premiers temps, nous nous dissimulions. Nous ne portions même pas nos décorations. Les hommes les portaient, les femmes non. Les hommes étaient des vainqueurs, des héros, des fiancés possibles. C'était leur guerre. Mais nous, on nous regardait avec de tout autres yeux. Je vais vous dire, on nous avait confisqué la victoire. On nous l'avait échangée, discrètement, contre un bonheur féminin ordinaire. Elles se sont tues durant si longtemps que leur silence, lui aussi, s'est changé en histoire. Toutes ne savaient pas se soumettre à la discipline militaire. La nature féminine résiste au règlement de l'armée. Mieux vaut ne pas regarder les visages des autres après une attaque. Ce sont des visages complètement différents de ceux qui ont d'ordinaire les gens. Je ne peux pas exprimer de quoi il s'agit. on a l'impression qu'ils sont tous un peu anormaux, qu'il y apparaît même furtivement quelque chose de bestial. Mieux vaut ne pas regarder. C'était des marins. Leurs cadavres sont restés là, longtemps. Ils ont enflé, et à cause de leurs maillots rayés, on aurait dit que des pastèques avaient poussé dans un grand champ. À la guerre, il n'y a pas d'odeur féminine. Toutes les odeurs sont masculines. La guerre sent l'homme. On ne peut pas avoir un cœur pour la haine et un autre pour l'amour. L'homme n'a qu'un seul cœur, et j'ai toujours pensé à préserver le mien. Donc, quelques courts extraits de « La guerre n'a pas un visage de femme », récit de Svetlana Alexievitch.
Washington mobilise 40 pays pour armer Kiev. Chef du Pentagone, le général Lloyd Austin a invité les représentants politiques et militaires d'une quarantaine d'États, membres ou non de l'OTAN, à le rejoindre mercredi 26 avril sur la base de l'US Air Force à Rammstein, en Allemagne. Le lieu symbolique Rammstein héberge un contingent américain de plusieurs milliers d'hommes, un hôpital où l'on a soigné les blessés et les amputés des guerres d'Irak ou d'Afghanistan, et dans les entrepôts de la base aérienne sont conservés bien au frais des armes nucléaires. La mission du général Austin sera de convaincre tous ses alliés des États-Unis de renforcer, dès aujourd'hui, l'aide militaire à l'Ukraine et au-delà, lorsque le conflit sera terminé. Ses interlocuteurs seront donc incités par leurs parrains américains à fournir à l'Ukraine les capacités additionnelles et instantanées que réclame le président Zelensky. En clair, il s'agira de procurer aux Ukrainiens dans les secteurs et dans les semaines et les mois qui viennent, la guerre va sans doute durer, les moyens de tenir bon face à l'armée de Poutine. Les discussions porteront sur des armements défensifs et non pas offensifs, comme le sont les chars lourds ou les avions de combat. Mieux vaudrait en éviter. En effet, il vaudrait mieux éviter que les Russes hurlent à la co-belligérance et menacent de s'en prendre à tel ou tel État allié de la Grande Amérique. Voilà pour les principes. Mais après 2 mois de guerre, le ton entre pays donateurs a légèrement changé. Aujourd'hui, on parle plutôt d'armement conséquent ou lourd. Exemple, après avoir fourni des missiles anti-chars et anti-aériens, l'Elysée a annoncé l'arrivée prochaine en Ukraine d'une douzaine de canons de 155 Caesar montés sur camion. Une arme française aussi bien défensive qu'elle peut être offensive. 6 coups à la minute et une portée de 40 km. Et nos chers clients saoudiens le savent, qui s'en sont bien servis dans la sale guerre qu'ils mènent au Yémen. Des artilleurs ukrainiens appelés à utiliser ces Caesars sont actuellement formés en France. Quant aux États-Unis, dont l'aide est déjà considérable, ils vont aussi livrer des canons de 155 à longue portée. Livraison de chars soviétiques. En matière de vente d'armes, difficile d'échapper à la co-belligérance, ironise un expert militaire. Si aujourd'hui la Slovénie accepte, par exemple, de livrer les chars russes M84 dont elle dispose encore, l'Allemagne promet de lui fournir des blindés d'infanterie Marder. Si la Pologne confirme qu'elle va remettre à Kiev ses vieux chars russes T-72, elle recevra en échange des Challenger britanniques, autre tour de passe-passe. Plusieurs anciennes républiques soviétiques vont envoyer à Kiev ce que Moscou leur vendait jadis, à savoir des pièces détachées, des réacteurs et des radars de bord, afin que les Ukrainiens puissent remettre en état leurs avions d'origine russe, MiG et Sukhoi. Pour récompenser ses alliés de leurs efforts, les États-Unis leur offriront à prix réduit des F-16 Made in USA, une façon de s'en faire autant de nouveaux clients. Reste à savoir si toutes ces armes permettront d'amener Poutine à négocier. Consulté par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, Des analystes diplomates militaires, industriels et chercheurs ont établi ce qu'ils présentent comme un constat après 2 mois de conflit. Selon leur estimation, non validée par le SGDNSN, la Russie a perdu. Qu'ils aient été détruits, endommagés ou abandonnés par leurs équipages, 520 chars de combat, 3000 blindés légers, 145 hélicoptères, 370 canons, 22 avions de combat et 4 navires. Les Ukrainiens avancent des chiffres bien supérieurs. Le complexe militaro-industriel russe aura quelque peine à remplacer ses pertes. Les embargos américains et européens l'ont privé de composants, notamment pour les missiles guidés, et de pièces détachées. S'ajoute à cela un endettement colossal et la corruption. Personne n'est parfait. Un article de Claude Angeli, paru dans le Canard enchaîné du 27 avril 2022. Belgrade a l'intention d'acheter 12 Rafales. Le 11 avril, le président serbe Aleksandar Vučić a confirmé. Jusqu'à présent, son armée alignait plutôt des avions et des hélicoptères russes. Mais le fait qu'un pays voisin et rival, la Croatie, vienne d'acheter 12 Rafales, a peut-être conduit la Serbie à en faire autant. Les vendeurs d'armes adorent équiper les pays ennemis. Frénésie nucléaire à Pékin. La Chine devrait avoir quadruplé d'ici à 2030 le nombre de ses têtes nucléaires pour atteindre 1 millier d'engins, lesquels peuvent lancer une quinzaine de bombes atomiques sur différentes cibles. C'est la prévision des services américains de renseignement. Si l'on en croit l'étude diffusée par le célèbre Houston Institute au centre de recherche de New York. Voilà un an, des satellites américains ont découvert la construction dans le désert de Gobi de quelques 120 silos destinés à recevoir des missiles balistiques intercontinentaux et 110 autres silos identiques dans la province du Xinjiang. Les images ainsi recueillies ont récemment été rendues publiques. Dans la course aux armements nucléaires, constate le Houston Institute, les États-Unis et la Russie ne sont plus seuls depuis l'entrée de la Chine dans la cour des grands. Avec ces 3 surarmées, la dissuasion va devenir de plus en plus compliquée.
Pour des brigades internationales de la bourgeoisie en Ukraine. La bourgeoisie de plateau télé semble unanime. Il faut se ranger d'un bloc derrière l'Ukraine et son si héroïque président Zelensky. Mieux, il faut plus d'armes, on vient de le dire, plus de bombes, plus de morts pour pouvoir sauver le monde libre de l'affreux Poutine. Il faudrait même carrément faire la guerre à Poutine. Face à cette demande toujours plus pressante, nous avons une proposition politique. Allez-y vous-même, hein, les gars. Dès le 24 février, ça a été la curée sur tous les plateaux télé. Il faut trouver du monde pour commencer l'invasion. Commenter l'invasion. Les spécialistes de stratégie militaire, de la vie ukrainienne sont trop occupés. Alors il faut meubler, avec des spécialistes sur le tas, tous plus ou moins insipides. Nathalie Saint-Cric, Raphaël Enthoven, BHL, évidemment, rien ne nous sera épargné. La guerre amène son lot de viols, de meurtres, de masse et de toutes les horreurs possibles, mais ça, c'est la goutte de trop. Car ces éditorialistes, tremblant d'excitation à la vue des bombardements sur Kiev, les mains moites en pensant à la part d'audimat qu'ils sont en train de se trancher, n'ont qu'une obsession, nous faire rentrer en guerre. Cette frange particulière de la bourgeoisie médiatique, dont la personne la plus illustre est l'inénarrable Bernard-Henri Lévy, ressort lors de tous les conflits armés pour défendre le monde libre. Ce monde libre, qui n'est rien d'autre que l'impérialisme US et ses avatars, est un mantra pour ces intellectuels néo-conservateurs. Ils ont milité pour l'intervention dans les Balkans dans les années 90, en Irak, quel succès, ou encore en Libye, incroyable efficacité, avec à chaque fois une rhétorique bien rodée. La guerre est un moindre mal face aux horreurs de ceux que le camp occidental érige en axe du mal. Milosevic, Saddam Hussein, Kadhafi et maintenant Poutine. Ces dictatures-là n'ont pas ou plus la cote pour les Américains et deviennent les super méchants de Disney. Il n'est évidemment pas question de défendre ici le bilan des dictatures susnommées ou même de relativiser leurs crimes. Mais les néoconservateurs n'ont que peu de discours sur les lapidations publiques de femmes adultérines en Arabie Saoudite ou les exactions multiples perpétrées par des bouchers mis en place par la France dans ses anciennes colonies. Pour noyer le poisson de leurs horreurs, les néoconservateurs saupoudrent toujours leurs discours bellicistes et guerriers de philosophie. Imprégnés de l'esprit des Lumières et d'un humanisme surplombant, ces dégoûtants personnages, tout droit sortis de leur salon, sont extrêmement cultivés, jugés plutôt. Au moment d'appeler le monde occidental à rentrer en guerre, Raphaël Glucksmann, intellectuel montant de BFM TV et ancien candidat PS, est tout en emphase. Ouvrez les guillemets. Mais nos élites biberonnées au mythe de la paix éternelle sauront-elles faire face à la tempête qu'elles ont si longtemps refusé de voir venir ? L'Europe trouvera-t-elle la force de naître de ce chaos que les anciens Grecs plaçaient aux origines du monde, ou bien s'y noiraient-elles par impuissance et apathie ? Ça, c'était une tribune dans Le Monde du 15 mars 2022. Je rouvre les guillemets. Si nous ne défendons pas l'Ukraine pour nos principes, alors faisons-le pour nos intérêts vitaux. Les Grecs, quoi. Le mec nous a sorti des références à nos cours de 6e sur l'Antiquité pour justifier de livrer des lance-missiles aux Ukrainiens. Alors, ça ne vous aura pas échappé, les Grecs n'ont rien à voir là-dedans. Il s'agissait juste pour Glucksmann de rappeler qu'il était très cultivé. Attention, une culture légitime, une vraie, avec du savoir et tout. Pas un truc vulgaire et sale, pas la saleté et la vulgarité des soldats qui crèvent dans la boue. Pas la vulgarité du peuple russe qui a le mauvais goût d'élire régulièrement Vladimir Poutine et qui va en chier encore un peu plus avec des batteries de sanctions économiques qui ne toucheront pas les structures du pouvoir russe. Ça sera donc pas une guerre vulgaire, mais bien une guerre raffinée, une guerre au nom de la civilisation, une guerre avec des jolies images, avec des jolis tanks qui explosent vus du ciel, avec évidemment des moments forts, comme lors des découvertes de charniers de Boutcha, où les monstruosités de l'armée russe sont érigées comme des bouchers d'un autre temps. BHL qualifiera ce massacre d'ouradour en Ukraine. Ce sera l'occasion de rappeler leur humanisme sans bornes. On ne les entendra pas parler des exactions de l'armée ukrainienne, qui sont évidemment nombreuses puisque c'est une armée en campagne, comme les autres. On les verra aussi très rétifs à rappeler la présence pourtant importante de néo-nazis dans l'appareil militaire ukrainien. Mais nous devons le rappeler, avant de trop s'énerver sur des personnes qui n'en valent pas la peine, ces gens-là ne sont rien et ne seront rien sans l'appareil médiatique qui les accompagne. Un appareil médiatique qui ne veut qu'une chose, plus de guerre. Plus de guerre pour alimenter la société spectaculaire marchande, pour alimenter la machine économique, plus de guerre pour permettre à l'Occident de se tailler encore plus de parts de marché, plus de guerre enfin pour nous endoctriner, nous faire vivre dans un état de guerre construit depuis une dizaine d'années, un état de guerre qui permettra de passer toutes les pires lois existantes. Alors, vous les intellectuels du pouvoir, les VRP des marchands de canons, si vous voulez à la guerre, si vous voulez aller à la guerre, et bien allez-y et restez-y. Voilà, c'était Action 115 au Dradec, le dernier vendredi d'avril, puisque tout le mois d'avril, en effet, c'est l'expo contre la guerre, mais vu que la guerre n'est pas finie, eh bien toute l'expo du mois de mai, ça sera contre la guerre, et nous continuerons nos performances contre la guerre, lire des textes, et on espère qu'au premier vernissage du mois de mai, il y aura des expressions musicales. On vous invite donc à participer, c'est Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, le vendredi à partir de 18h30.
Close my eyes and make it go away. just don't push it off.